Nous sommes samedi 28 décembre 2024. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Exactement 6 heures, passées de 15 minutes à Bukavu, même heure, dans les territoires de Lubero au nord Kivu. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, l'armée congolaise satisfaite des opérations sur différentes lignes de front contre les rebelles du M23, précisément à Lubero, où elle annonce avoir capturé un élément de l'armée rwandaise. Reportage complet à suivre dès le début de cette édition du journal. Au sommaire également, la coalition des groupes armés Makanika et Red Tabara, empêchés par les phares, décide de prendre le contrôle de l'aérodrome de Kiziba à Minembwe. Ces rebelles tenteraient de rallier cette partie de la République au Rwanda pour faciliter les ravitaillements en armement de la FC-M23 au sud Kivu. Et dans la deuxième partie de cette édition du journal, notre page rétrospective annuelle consacrée au dossier femmes, avec en toile de fond la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme à travers une marche pacifique pour exiger la paix dans la partie est du pays. Voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin. Radio Mandela en plusieurs lettres, les journaux en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Et d'abord, cette information, nous venons de l'apprendre. Un incendie s'est déclaré hier vendredi 27 décembre 2024 aux environs de 19h dans la commune de Kadutu, plus précisément au quartier Nkafu, avenue Hôpital, à quelques mètres du camp des profs de l'ISTM Bukavu, Texas. Bilan, deux morts, dont les maris et son épouse, répondant au nom de Amoul Likabisa et Madame Bertha Kamalebo. Les corps des victimes viennent d'être acheminés à la morgue de l'hôpital clinique des universitaires de Bukavu. Les cadres des concertations de la société civile ceux qui vous félicitent, les jeunes du milieu et les cadres des bases qui se sont mobilisés pour éteindre les feux et acheminer les corps à l'hôpital. Il demande à la population d'être vigilante, à surveillant régulièrement les installations électriques et panneaux solaires et les braseros pour limiter les cas d'incendie, selon Hippocrate Maroumé du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, les secteurs opérationnels se collent à un grand nord. Des phares d'essai au nord Kivu dressent un bilan positif des opérations sur différentes lignes de front contre les rebelles du M23. À Lubero, l'armée annonce avoir capturé un élément de l'armée rwandaise, les seuls survivants de son unité, ainsi que plusieurs effets militaires qui ont été présentés à la presse. De Goma, Paulin Aganz et notre permanent nous fait le point.
Dans une conférence de presse tenue à Lubero la soirée du jeudi, l'armée congolaise confirme que la situation est actuellement sous son contrôle sur cette ligne opérationnelle. Le lieutenant-colonel Makazuka Imumba, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, rassure le déroulement des opérations sur les champs de bataille dans les territoires de Lubero.
Les opérations se portent très bien. Nous avons récupéré l'ennemi qui tentait de s'aventurer sur la localité de Nouluma a été démystifié et nous avons récupéré Nouluma. Aujourd'hui, les opérations se déroulent dans les environs de Mambasa.
Et c'était aussi une occasion pour l'armée congolaise de présenter à la presse un certain Akizimana Irakunda Jean de Dieu, âgé de 22 ans, soldat de la première classe de l'armée rwandaise qui est dans les M23. Celui-ci a été capturé par les FRDC dans la colline de Mambasa en territoire de Lubero après avoir marché sur les M23, tous péris dans les affrontements précises de l'armée congolaise.
Il est le seul survivant de son unité qui a été déployée dans la zone. Nous l'avons capturé, comme il est passé, on l'a soigné. Nous totalisons 15 drones de l'armée rwandaise qui ont été abattus dans la zone.
Avec ses 900 collègues recrutés au Rwanda, cet élément RDF a traversé la frontière congolaise en 2023 au niveau de Kikingi, où il a été accueilli dans le parc national de Virunga par Sultan Makenga avant d'être déployé dans la première compagnie du capitaine Karegeya pour combattre le FRDC dans les territoires de Lubero. Goma, Paulin Aganze, Radio Mandela.
Et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont empêché pendant au moins 48 heures. La coalition armée Makanika Red Tabar a de prendre possession et le contrôle de l'aérodrome de Kiziba à Minembwe afin de relier cette partie de la République au Rwanda pour faciliter les ravitaillements en armement, munitions et personnel dans l'objectif de mieux ouvrir un front AFC M23 dans le sud Kivu au maire Moudé Kereza.
Cette information est livrée par le lieutenant Elongo Kiondwa Marc, porte-parole des FARDC du secteur opérationnel Sokola 2 sud sud Kivu, dans une dépêche consultée par Radio Maïndéléo ce vendredi 27 décembre 2024. Dans cette dépêche, le lieutenant Marc Elongo informe que ces terroristes se sont heurtés à la résistance de l'armée loyaliste et ont été repoussés et délocalisés de quelques-unes de leurs positions. Marc Elongo indique que le bilan provisoire fait état de 31 morts et plusieurs blessés côté ennemi. Notre source indique alors que faisant suite à cet échec, l'ennemi cherche à désolidariser la population de la contrée de l'armée en y commettant de massacres, vols et viols lors de sa fuite afin de rejeter ses actes sur l'armée loyaliste. Le lieutenant Elongo Kiondwa Marc, porte-parole des FARDC du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud qui vous en parle.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de grande envergure de la coalition armée Makanika Red Tabar contre plusieurs positions de votre armée dans l'objectif de prendre possession et le contrôle total de l'aérodrome de Kiziba à Minembwe, afin de relier cette partie de la République démocratique du Congo au Rwanda pour faciliter le ravitaillement en armement, munitions et personnel dans l'objectif de mieux ouvrir un front AFC M23 dans la partie du sud Kivu. Je tiens à vous informer que ces terroristes se sont heurtés à la puissance de feu de votre armée loyaliste et ont été repoussés, délocalisés de quelques-unes de ces positions. Comme bilan du côté ami, du côté de votre armée, il y a eu 2 morts et 3 blessés. Et du côté de l'ennemi, 31 combattants ont été neutralisés et plusieurs blessés.
De son côté, Kelvin Bouidja, coordinateur de la société civile des compatriotes congolais Sosikoan Sigle, encourage les FARDC pour avoir neutralisé 31 éléments du colonel des secteurs de l'armée Rukunda Michel Makanika et empêché celui-ci d'atteindre son objectif. Précisons que ces accrochages ont duré près de 48 heures, soit du 25 au 26 décembre de cette année.
Merci Omer Amoudé Kereza. Exactement 6 heures passées de 21 minutes à Bukavu et dans les territoires de Lubero où nous sommes suivis. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndéléo. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeant des chapitres à présent, le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pourroussine, demande à l'armée de libérer les sites des Amsar, car la province et la cité Interlac SA, propriétaires des lieux ayant trouvé des partenaires financiers déjà à Bukavu, sont disposés à ériger un centre de formation professionnelle sur ces sites. Il l'a signifié dans une correspondance adressée au commandant de la 33e région militaire, dont une copie a été déposée à la rédaction des Radio Maïndéléo hier vendredi 27 décembre 2024. Dans cette correspondance, le gouverneur des provinces indique que ce centre de formation professionnelle aura un programme certifiant pour les métiers verts, protection des bitumes et des pavés verts, plongée sous-marine, pisciculture en cage et au sol, agriculture sous terre et maçonnerie verte. Le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi indique que la seconde phase du projet consistera à ériger une cité moderne constituée des habitations à loyer modéré pour désengorger la ville de Bukavu surpeuplée. Le gouverneur indique que ces initiatives d'un coût de plusieurs dizaines de millions de dollars américains seront matérialisées à travers des partenariats que la province du Sud-Kivu venait d'engager avec la région de Berkane au Maroc et des villes communes de Saint-Gilles et Sambreville en Belgique. De ce fait, le gouverneur des provinces invite les commandants de la 33e région militaire à délibérer avec bénéfice dans l'urgence ces sites. Et depuis le début de la saison des pluies, plusieurs avenues du quartier Yaloukimba en commune d'Ibanda font face à une pénurie d'eau avec les conséquences que cela entraîne sur la santé des femmes et des jeunes filles. Ce constat est des Radio Maïndéléo hier vendredi 27 décembre 2024. Après un tour dans ces quartiers, les points les plus touchés par cette situation sont Gouba 1 et 2 et une partie de l'avenue Albert Kayabou ou encore Cercle Épique. Obedi Manvu, habitant du quartier Yaloukemba, indique que malgré les travaux d'aménagement du captage d'Ngouba, la population a difficile à accéder à cette denrée vitale. À l'en croire, les autorités nationales et provinciales devraient s'impliquer ensemble avec la régie des eaux pour résoudre une fois pour toutes la carence d'eau dans cette partie de la ville de Bukavu. Obedi Manvu alerte sur les risques des propagations des maladies d'origine hydrique au regard de la pénurie d'eau potable dans une bonne partie de la commune d'Ibanda.
Et voilà, nous entrons en 2025 avec le même problème de la pénurie d'eau. Vraiment, nous sommes en train de solliciter qu'il y ait l'implication de tout le monde. Bien que la régie des eaux peut faire des sommiers, mais il faut qu'il y ait aussi l'appui technique de l'État congolais pour chercher comment est-ce que finir avec cette question de la pénurie d'eau. Nous n'allons pas continuer à enterrer les nôtres parce qu'à travers les maladies d'origine hydrique, et que donc il y a des avenirs qu'il faut plus de 6 mois, il y a des avenirs qu'il faut plus de 8 mois, de 4 mois, 3 mois, ça que l'on écoule, et aussi d'autres avenirs dans notre quartier qui vaut même de plus de 2 ans et demi, comme par exemple au cercle hippique, hein, ça que l'on écoule. On ne sait pas le problème, c'est quoi.
Et entre-temps, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, Bukavu-Mwenga, vont être exécutés par l'entreprise Sokok, de la place de l'indépendance jusqu'au centre commercial de Mugogo en territoire de Walungu dans sa première phase. Pour ce qui est de l'autre partie allant de Mugogo jusqu'à Mwenga et Shabunda, cette dernière va être réhabilitée par la société Invest Development grâce à un partenariat public-privé signé avec le gouvernement congolais Alain Kabika.
L'information est livrée par le ministre provincial des infrastructures, Georges Kibongé, au sortir d'une audience accordée aux membres du regroupement des faiseurs d'opinion pour la démocratie et la bonne gouvernance du Sud Kivu Refrodège, les jeudi 26 décembre 2024 à son cabinet de travail. Les coordonnateurs du Refrodège, Augustin Biamungu, expliquent que lors de cette rencontre, le ministre leur a rassuré qu'un montant de 5 millions de dollars américains a même déjà été remis à la SOCOC pour l'exécution de ces travaux. Augustin Biamungu salue l'annonce de cette nouvelle et veut voir cette fois-ci les travaux être exécutés dans sa totalité à la grande satisfaction de la population. Les coordonnateurs du regroupement des faiseurs d'opinion pour la démocratie et la bonne gouvernance au Sud Kivu Refrodège, Augustin Biamungu en parle.
Nous avions aussi été curieux de savoir où seraient partis les fonds. On a trouvé que c'était un peu de faux qui faisait ces petits travaux. Il a dit que la société Sokok va prendre les travaux de la place de l'indépendance jusqu'à Mugogo. Une autre société, dans le cadre de PTT, Interest Development, cette société va prendre de Mugogo jusqu'à Mwenga. Et ces travaux seront lancés vers le 15 janvier. Il nous a montré que la première dame sera ici le 15 janvier pour lancer ses activités. On nous a montré que la société Sokok a déjà réussi un financement de 5 millions de dollars. Le message à la population, c'est un message d'apaisement, de joie. Voilà que c'est une bonne nouvelle pour nous.
Pour le ministre, ces travaux pourraient être lancés par la distinguée première dame Denise Nyakiru en date du 15 janvier 2025 pour une autre source.
Merci Alain Kabika et les députés provinciaux de la deuxième législature de la troisième république de 2018 à 2023 sollicitent la médiation du gouverneur des provinces pour l'obtention de leurs émoluments du mois de février 2024. Dans une correspondance adressée au gouverneur, ils expliquent que le gouvernement central avait libéré leurs émoluments du mois de février, mais ils ont été consommés par les députés de l'actuelle législature. Pourtant, leur mandat avait été validé seulement le 4 mars 2024. Ils rappellent les dispositions de la Constitution, notamment l'article 103 qui stipule que le mandat du député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale, ce qui est applicable mutatis mutandis aux assemblées provinciales conformément à l'alinéa 6 de l'article 197 de la même loi. Les élus de l'ancienne législature signalent que dans d'autres provinces, notamment au Nord Kivu, grâce à la médiation du Conseil de sécurité, leurs émoluments de février 2024 ont été restitués. Il en est de même pour les députés des provinces du Congo central et du Sud Ubangi. Écoutons à ce sujet Georges Musongela, élu de l'ancienne législature.
Une législature se termine par l'installation d'une nouvelle législature. Et dans le cas sous examen, nous avons passé le flambeau à nos collègues par une remise et reprise qui est intervenue en date du 27 février. Ici, il est également important de vous rappeler que le mandat d'un député commence par la validation de ses pouvoirs. Et nos collègues élus de la nouvelle législature ont donc validé leur mandat en date du 4 mars 2024. Ce qui veut dire, vous comprenez aisément, qu'ils n'étaient pas éligibles au paiement du mois de février 2024.
Et admis pour les traitements à l'hôpital militaire des forces armées de la République démocratique du Congo à Bukavu depuis le 26 octobre, un pêcheur du groupement de Bushumba du nom des Bassiniers Abudjiriri a quitté ses structures sanitaires hier vendredi 27 décembre 2024. Ces derniers avaient reçu une balle au pied pendant les échauffourées entre pêcheurs de Bushumba et ceux du groupement de Lugendo au sujet du type des filets utilisés pour la pêche. Il a quitté l'hôpital après paiement de sa deuxième facture des soins par le député provincial Jackson Kalimba. Il a recouvré sa santé et poursuivra sa rééducation chez lui à la maison dans les groupements de Bouchumba en territoire de Kabaré. Le pêcheur bassinier Zabou Diriri remercie les donateurs pour ces gestes de compassion.
Il s'agissait d'un problème des pêcheurs des filets Kalera et des pêcheurs des filets Mayan. Les deux tendances étaient à couteau tiré. Le pêcheur des filets Mayan disait que ceux avec filets Kalera vont finir les petits poissons dits frétins dans le lac. Alors, un vendredi, ils sont venus avec des militaires le matin. Ces derniers ont ouvert le feu, dont la pagaille, une balle a atteint mon pied. Je suis parti à l'hôpital de Birava, mais on a refusé de me traiter. On m'a transféré à Miti et on n'a pas su me traiter. Heureusement, je me suis retrouvé ici à Fak. Puis aussitôt que la facture a été rendue disponible, par la grâce de Dieu, j'ai vu arriver Jackson Kalimba qui a honoré la première facture. Aujourd'hui, il paye la seconde. Que Dieu le bénisse énormément.
Et à l'occasion, le député provincial Jackson Kalimba a visité l'hôpital militaire des forces armées de la République démocratique du Congo sur avenue de la résidence pour s'imprégner des conditions dans lesquelles sont prises en charge les militaires malades et des blessés par balles. Il a déploré le fait de garder dans une même chambre les patients hommes et femmes. Faute d'espace, certains malades sont hébergés sous la tente dans des conditions inappropriées, indique le député Kalimba. Ce dernier plaide pour la construction d'une structure sanitaire moderne en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo et leur dépendant. Et avant de parler sport, vulgariser les guides d'investissement sensibles au conflit, c'est l'objectif d'un atelier de sensibilisation organisé par la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle dans ses installations situées sur avenue Mbaki, en commune d'Ibanda. Au cours de cet atelier, les participants, qui sont en majorité des opérateurs économiques, reçoivent les directives ou les orientations pouvant les aider à effectuer leurs activités économiques transfrontalières tout en contribuant à la cohésion sociale et à la paix dans la région des Grands Lacs Mapendo-Linda.
Le premier vice-président de la FEC, Didier Nkere, qui a ouvert officiellement cet atelier, renseigne que les commerçants transfrontaliers sont des fois victimes de certains abus qui se font à la frontière. Ces derniers voient leurs marchandises être pillées, brûlées et jetées dans la rivière Ruzizi pour des raisons différentes. Une situation qui ne favorise pas le bon climat des affaires et engendre des conflits. Pourtant, les commerces transfrontaliers doivent contribuer à la paix, renchérit Didier Nkere.
Nous avons remarqué qu'il y a des abus qui se font au niveau des frontières. Les petits commerçants qui n'ont pas suffisamment de moyens, de part et d'autre, ils sont abusés. Leurs marchandises parfois sont détournées, parfois même brûlées. Alors c'est le cas par exemple des Ruzizi Premier où les marchandises parfois des petits commerçants sont jetées même dans la rivière Ruzizi. Et face à tous ces abus-là, nous, la FEC, nous voulons accompagner les petits commerçants frontaliers pour être leur bouche autorisée pour faire des plaidoyers. Et c'est pourquoi, au cours de cet atelier, nous avons tenu, n'est-ce pas, à partager avec les partenaires, les membres de la FEC, comment est-ce que ce guide va nous accompagner, va nous appuyer pour lutter contre ces genres d'abus.
Les participants à cet atelier de sensibilisation remercient la FEC pour ses assises, qui vient encore une fois les aider à améliorer leurs activités. Cependant, l'un d'eux, le vice-président des ACAD, Olivier Kialangiloa, demande à la FEC de plaider auprès de l'État congolais pour la création d'un guichet unique pour tous les services œuvrant à la frontière.
On a peur de faire les affaires parce qu'on est mal informé. On risque même de payer ce qu'on ne doit pas payer. Je pense qu'avec cet énième atelier, et qu'une fois on aura des conclusions, et que les conclusions vont être adressées aux autorités, ils vont encore prendre d'autres mesures pour renforcer ces mesures-là de sécuriser les opérateurs économiques transfrontaliers.
À noter que cette activité se tient dans le cadre du projet Mpaka Chambaletu, exécuté par Alerte Internationale avec l'appui financier de la coopération suisse.
Et par le sport, en prix bref, Ligue nationale de football Inafuti, Liko Cash, première division, les FC Étoiles du Kivu affrontent les derniers clubs Motema Pembe de Kinshasa ce samedi dans une rencontre inédite. Les Oranges et les Immaculés s'affrontent avec comme enjeu majeur les 3 points pour se repositionner au classement provisoire. Coup d'envoi de la rencontre, 15h, heure de Bukavu en Ligue 2 de la Inafuti. Hier, 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné les matchs entre l'OC Mungano et l'AS Kabasha, joué au stade de la Concorde en commune de Kadutu. Un nul frustrant pour les Chalalilé qui perdent de leur première place au détriment de l'AS Kapako de Bénin, vainqueur à Goma de Moulazo de Walungu sous le score étriqué d'un but à 0, et à Uvira Mwangaza et Maïka dans les derbies de la ville se sont séparés sur un nul d'un but partout. Plusieurs événements ont marqué les secteurs femmes au courant de l'année 2024, et parmi lesquels l'organisation d'une marche pacifique le 8 mars, journée internationale des droits de la femme pour exiger la paix dans la partie est du pays. Il y a eu également la commémoration de la journée de la femme rurale célébrée à Kasika en territoire de Mwenga, où les femmes ont été enterrées vivantes lors des massacres qui y sont déroulés en 1999 à l'époque des rebelles du RCD. Le tout est à suivre dans cette rétrospective annuelle consacrée à la femme dont les condensés vous est proposé par notre consoeur Mapendo Linda.
Le 4 mars, la chef des divisions provinciales du genre famille et enfants, Jacqueline Gengele, annonce que la journée du 8 mars sera célébrée par une marche pacifique afin de compatir avec les femmes victimes des atrocités au Nord Kivu et en Ituri. Elle est dit dans un entretien avec un reporter de Radio Maendeleo. Pour la chef des divisions du genre, Jacqueline Gengele, c'est impossible de fêter tout en sachant que les femmes et jeunes filles sont tuées dans ces deux provinces, d'où la nécessité de rappeler au chef de l'État qu'il a l'obligation de garantir la sécurité à ces femmes. Jacqueline Gengele estime que la meilleure façon d'investir en faveur de la femme congolaise, c'est de lui garantir la paix et la sécurité. Elle invite les femmes à participer massivement à cette marche. Le 5 mars, l'association Sans But Lucratif Vision Barza Grand Lac honore 4 femmes qui ont dirigé les bureaux de coordination de la société civile. C'est parce qu'elles ont prouvé leur engagement des luttes pour la parité, l'égalité, les genres et l'autonomisation de la femme à travers leur secteur d'activité. Il s'agit d'Agnès Kamwanya, qui a dirigé cette structure de 2009 à 2011 comme présidente, Elodine Tamuzinda de 2011 à 2013, Marie Migani en 2020 et Maître Néné Bintou. Pour Jules Biemba, coordonnateur de Vision Barza Grand Lac, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des luttes pour le droit de la femme en cette année 2024. L'exemple de ces 4 femmes qui ont déjà dirigé les bureaux de coordination devrait inspirer d'autres femmes à ne pas baisser les bras, mais à travailler fort pour l'émancipation de la femme au travers les postes de prise de décision. Le 6 mars, les femmes ont désormais un cadre où elles peuvent se rencontrer, échanger les idées et partager leurs expériences. Il s'agit de l'auditorium de la femme ou maison de la femme, construite grâce au financement de la coopération allemande du projet d'appui au système de santé PASS en sigle et la coopération suisse. Cet ouvrage est placé sous la responsabilité de la division provinciale du genre et servira également à l'encadrement socio-économique et juridique des femmes. Le 8 mars, comme au Day, les femmes de la ville de Bukavu célèbrent la journée internationale des droits des femmes dans un état de colère. Femmes et hommes genrés, habillés tous en noir avec des calicots à la main, scandant des chansons hostiles à Paul Kagame. Le président rwandais est accusé d'être l'auteur principal des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Les manifestants quittent l'avenue Mbaki vers le gouvernorat du site Kivu, où un mémo adressé au président de la République et au système des Nations Unies élu devant l'autorité provinciale. Le 11 mars, le surnommé réparateur des femmes, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, exprime sa solidarité avec toutes les femmes et jeunes filles qui se battent pour leurs droits. Il est dit en marge de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes dans une déclaration rendue publique. Le 12 mars, le collectif des femmes candidates 2023 de la majorité présidentielle est créé au site Kivu par les femmes candidates aux élections passées en RDC. Ce collectif a pour but de rassembler toutes ces femmes qui n'ont pas été élues au scrutin du 20 décembre 2023 afin de réfléchir sur ce qu'elles peuvent faire après cette étape. Pour la modératrice de ce collectif, Nzigire Migabo Joseline, ce collectif va permettre à ces femmes de développer d'autres stratégies pour être impliquées dans la gestion de la chose publique et apporter leur aide au développement du site Kivu en particulier. Le 22 mars, des magistrats et avocats de la ville de Bukavu sont en atelier d'échange et discutent des articles du Code pénal et de la Constitution congolaise dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'est au cours d'une matinée juridique organisée par la Fondation Panzi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le 13 avril, L'avocate Néné Bintou est élue présidente du bureau de coordination de la société civile du CIT Kivu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Aussitôt élue, Néné Bintou s'est fixé comme objectif de travailler pour exiger la bonne gouvernance. Le 18 avril, la nouvelle présidente élue, Maître Néné Bintou, participe à de nouvelles assises à Nairobi autour des rôles des femmes dans les processus de paix en cours dans la région de Grand Lac. Les femmes du Nord Kivu et du Sud Kivu mènent un plaidoyer pour empêcher la balkanisation. Ces femmes déposent un cahier de charges au président angolais, João Lourenço. Dans cette note de plaidoyer, la société civile, acquise encore une fois le Rwanda, étant à la base du massacre commis en RDC à travers les M23. Mais des femmes des médias de la ville de Bukavu et ses environs sont formées par l'association des femmes des médias AFEM sur comment elles peuvent aussi informer à travers les canaux numériques. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les femmes professionnelles des médias à partager les informations le plus loin possible à travers le numérique. Les 15, l'association Tous pour les genres, les développements et la paix, en collaboration avec Action des femmes pour la stabilité communautaire, plaide pour la mise en place des installations sanitaires dans les bateaux adaptés aux femmes en situation d'handicap. Elles l'ont fait savoir, au cours d'une rencontre avec les propriétaires des bateaux, ces femmes renseignent qu'elles ont fait ces plaidoyers après un constat selon lequel des femmes handicapées éprouvent des difficultés pour se soulager lorsqu'elles sont en plein voyage. C'est pourquoi ces femmes recommandent aux propriétaires des bateaux d'agir dans l'urgence. Le 29 mai, les femmes de Radio Maendeleo organisent une journée de sensibilisation au lycée Nyakavogo. L'objectif est de sensibiliser les élèves filles de cette école sur l'hygiène menstruelle et le comportement à adopter pendant cette période. L'activité se tient sous le thème « Les règles, parlons-en ». Le 26 juin, la présidente du caucus des femmes pour la paix, Solange Luachiga, rappelle que la représentation de la femme dans les instances décisionnelles est un droit reconnu au niveau international, régional, national et provincial. Pour elle, avoir des femmes dans les gouvernements provinciaux du Sud Kivu va améliorer la qualité de la gouvernance parce qu'elles ont des valeurs. Juillet, la société civile du Sud Kivu recommande que soient identifiées clairement les organisations féminines œuvrant en province et leurs besoins, mais aussi assurer un renforcement des capacités de leurs membres. Ceci pour leur permettre de répondre aux besoins des membres. Ces recommandations et autres sont formulées au cours d'un atelier d'échange d'expériences entre les organisations de la société civile du Sud Kivu et l'équipe de ONU Femmes. Cette activité intervient dans le contexte du désengagement de la MONUSCO qui assurait un appui à ces organisations. Après son désengagement au Sud Kivu, des plaidoyers sont menés par la société civile pour combler ces vides. L'une des solutions, c'est qu'ONU Femmes reste au Sud Kivu pour poursuivre cet accompagnement. Le 12 juillet, 120 filles et femmes reçoivent les kits de réinsertion après 6 mois de formation professionnelle au sein de la maison Dorcas de la Fondation Panzi. Ces kits sont composés des outils et matériels selon les différentes filières de formation. Il s'agit des filières coupe et couture, savonnerie, bijouterie, soins de beauté, pâtisserie, informatique, etc. Cette remise coïncide avec la clôture de la formation professionnelle et la réinsertion des femmes et filles victimes de violences sexuelles. Août, les leaders des organisations féminines humanitaires de Bukavu promettent d'élaborer des projets d'urgence humanitaire en prenant compte du genre à tous les niveaux à l'issue d'un atelier de renforcement des capacités des 3 jours organisé par ONU Femmes dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. Les participants à cet atelier expriment leur gratitude envers ONU Femmes pour cette séance de formation. Ils affirment avoir acquis des stratégies précieuses qui les aideront à être plus compétitifs lors de la soumission de projets d'urgence humanitaire. Le 29 août, des leaders communautaires du groupement d'Irimbi Katana dans les territoires des Kabaré sont sensibilisés sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre par l'association des femmes juristes congolaises AFEJICO en sigle. Pour Anake Tuchikwanine, chargée des programmes à AFEJICO, les buts poursuivis par son organisation est de former cette couche de la population sur comment lutter contre ces formes de violence et les faire connaître les sanctions prévues par la loi pour ces infractions. Le 31 août, Pour elle, c'est un nouveau projet mis en place en faveur des femmes entrepreneurs. Dans le cadre de ces projets, l'incubateur des startups et Kivutech procède aux inscriptions de femmes entrepreneurs pour un accompagnement de 15 mois. À en croire Kivutech, l'accompagnement consiste à donner aux entreprises des femmes qui innovent dans leurs activités un accès au bureau du travail, réseau des coachs et mentors ainsi qu'à des opportunités de financement. Pour cette opportunité, les critères sont tels que être une femme entrepreneur, fondatrice d'une entreprise à Bukavu, avoir au moins une année d'existence, avoir une activité qui cadre avec l'agro-business, le numérique et l'environnement. Le 21 septembre, l'Organisation des Nations Unies Unifam remet un kit d'outils de service à la division provinciale du genre, famille et enfants du site Kivu, dont le but d'améliorer ses conditions de travail. Cette cérémonie se déroule à l'auditorium de la femme à la botte à l'issue d'un atelier de formation de 2 jours consacré aux membres du comité de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 11 octobre, le monde célèbre la jeune fille. À l'occasion, les parents sont appelés à accompagner leurs filles afin de les inciter à rêver grand. Le 15 octobre, le monde célèbre la femme rurale. Au site Kivu, cette journée est célébrée en territoire de Mwenga pour honorer les mémoires des femmes enterrées vivantes par les rebelles RCD en 1999. À l'occasion, les habitants de Mwenga demandent qu'il soit érigé un mausolée à cet endroit pour que le monde entier sache ce qui s'est passé en RDC. Les 20 premières femmes bénéficiaires du programme Chilid, que signifie elles dirigent, sont appelées à mettre en pratique les instructions reçues au cours d'une formation organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en RDC. Appel lancé par Yvette Mushigo, point focal du programme Chilid dans la province du Sud Kivu. Yvette Mushigo demande aux bénéficiaires de prouver à la communauté que la femme a des atouts qui peuvent être bénéfiques à tous les membres de la dite communauté, tant politique que dans d'autres domaines. Le 10 décembre, la chef des divisions provinciales du genre, Jacqueline Gengele, renseigne que plusieurs activités ont été menées dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et la jeune fille. Ces activités sont entre autres le partage des témoignages poignants du vécu de la femme, notamment dans les territoires, les séances de sensibilisation en ce qui concerne les droits des femmes et la lutte contre les violences faites à la femme. Le 12 décembre, 290 femmes venues des différents villages du Sougou groupement des Boudodo dans les groupements des Kanyola en territoire de Walungu peuvent désormais s'auto-prendre en charge. Ceci après avoir suivi une série de formations dans plusieurs modules par l'organisation internationale Women for Women International. La cérémonie de graduation, couplée à la remise des brevets aux participants, est organisée en présence de plusieurs invités et habitants du milieu. La directrice pays de l'organisation Women for Women International, Vianney Dong, souligne qu'au-delà du métier d'élevage et celui des petits commerces dans lesquels ces femmes ont été formées pendant 12 mois, ces dernières ont également été outillées sur la santé et le bien-être, l'épargne, l'hygiène, la résolution pacifique des conflits, la solidarité et le travail des femmes, les droits, l'égalité des genres et la prise des décisions. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maïndéléo, nous voici au terme de cette rétrospective consacrée à la femme. Merci à vous de l'avoir suivi.
Et c'est quelques communiqués avant de clôturer complètement cette édition du journal. L'université de Bukavu, UB, porte à la connaissance du public en général et de ses étudiants, ainsi que ses enseignants, qu'elle va déménager pour un nouveau site les prochains jours. Elle communiquera incessamment sa nouvelle adresse. Notez bien, les inscriptions continuent à s'effectuer à son site d'Engouba. Ainsi fait à Bukavu le 27 décembre 2024, le professeur Bissimo Akaba Chapo, ancien promoteur, signe. Et sous le haut patronage de son excellence maître Jean-Jacques Elakano, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux du DPS Tshisekedi, Fédération de Bukavu, invite tous les membres sympathisants, membres des associations et mouvements affiliés à l'UDPS ainsi qu'aux membres des partis politiques alliés et amis à participer à la matinée politique qui se tiendra à la permanence du parti situé sur Avenue Kibombo numéro 86 à côté des radios Maïndéléo. Thème soutien aux réformes constitutionnelles, jour et date, c'est samedi 28 décembre 2024, heure 13h. Ainsi fait à Bukavu, le 27 décembre 2024, Guillaume Irenge Kalumuna, président fédéral, signe. et les initiatives Ngabo Grâce invite tous ses membres et sympathisants à prendre part active à la matinée politique animée à son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano ce samedi 28 décembre 2024 à la permanence de l'UDPS Fédération de Bukavu sur Avenue Kibombo à côté des radios Maindelo à 12h. Tous derrière les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous disant oui au changement de la Constitution. Ainsi fait à Bukavu le 27 décembre 2024 pour les initiatives Ngabo Grâce Kamukuta Ibumba Kamil signe ses communiqués. Et dans sa mission républicaine qui consiste à féliciter, critiquer et proposer les communicateurs républicains Corée PRDC, opposition républicaine félicite le président de la République, chef de l'État, pour les récentes nominations au sein de l'armée qui portent aujourd'hui les fruits sur le terrain. En tant que républicain, les Corée PRDC encourage notre armée à poursuivre les combats sans arrêt ni respecter les cessez-le-feu contre les terroristes du M23 soutenus par les pays étrangers jusqu'à la conquête totale du territoire national. Ainsi, demandons à toutes Congolais et Congolaises nationalistes sans tendance à les soutenir les chefs de l'État et notre armée. Exigeons au gouvernement national de continuer à doter des moyens nécessaires à nos vaillants militaires au front. Quant au gouvernement provincial, sachant qu'on ne trompe pas les peuples tous les jours, les Coreps RDC demandent où sont les sujets chinois attrapés et présentés à la population. Ainsi fait à Bukavu le 27 décembre 2024 pour les Coreps RDC. Désiré Taïra, coordonnateur national et commissaire général, signe. Six heures passées des 49 minutes à Bukavu et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maindeleo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Au lieu de vous rappeler les sommaires, je vous laisse plutôt suivre cette même édition en version Swahili avec notre consoeur Mapendo Linda. La mise en onde était celle d'Emile Mouin dans la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes de Radio Maindeleo. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.